Donc, je précise tout de suite, en entrée de jeu pour les nouveaux, il y a toujours des nouveaux. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui ne reviennent pas. Donc, il y a un bon passage. C'est qu'il y a un seul luxe qu'on demande, enfin que je demande, c'est d'écouter. Ça paraît un peu paradoxal. Mais même ne pas dire « passe-moi le sel » ou n'importe quoi, ça baisse mon tonus énergétique. Voilà. C'est comme les chauves-souris. On a des études très profondes sur les chauves-souris. Elles émettent des rayons et elles font des images en trois dimensions dans leur tête. Et moi, c'est comme ça. Si vous êtes silencieux, ça va bien passer. Sinon, j'aurais du mal, surtout avec la salle en bas. Le café caté, c'est un truc assez intéressant. C'est vrai qu'on vient aussi quelquefois pour voir un peu comment ça se passe. C'est vrai que c'est un peu exceptionnel qu'on soit si nombreux. C'est possible parce qu'on a la mezzanine. Les fondateurs du café caté ont dû faire une centaine de salles pour trouver celle qui leur convenait, d'après ce qu'ils m'avaient dit. Hein. Et depuis, on est bien accueillis, ils nous aiment bien, on est les chouchous de la direction. Là. Alors, ils demandent simplement que vous ayez une consommation. Voilà. Et moi, je demande que vous soyez en silence. Alors, les questions, c'est à la fin. Voilà. Alors, je vous présente rapidement, on est dans toute une série sur les sacrements. Hein, 3 ans, l'année dernière, le baptême. Hein, le baptême vu sous l'angle du combat chrétien. On va terminer ça aujourd'hui. Bon. Au mois de novembre, il y a une séance hors série. On en fait de temps en temps sur des sujets un peu plus actuels, disons, ou différents. Je ferai sur Vatican II. J'ai intitulé ça, bon, l'autorité de Vatican II. On pourrait mettre comme sous-titre ni cet excès d'honneur, ni cette indignité, quoi. Pour les gens qui connaissent un peu les lettres françaises. Alors, bon, je ne sais pas comment je traiterai le sujet. Ça sera aussi un peu comme vous le souhaitez. Je peux raconter aussi mes souvenirs. Parce que voilà, ça pourrait aussi être une tranche d'histoire de l'Église, comment on a vécu ça. Moi, j'étais plutôt dans la partie des gens qui ont un peu renaclé. Hein. Et donc, voilà, et comment maintenant on peut dire des choses juste sur le Concile, ce qui est quand même important dans l'Église. Et puis après, on repartira à partir de décembre, donc sur la confirmation. Hein. Et cette année, on va traiter de la confirmation et de ce qui en découle. Alors, je ferai un topo sur le discours sur la montagne, où le Christ. Il y a une place là. Où le Christ nous explique quelles sont les armes du chrétien. Un topo sur la suite du Christ, dans sa pauvreté, chasteté, obéissance. Un topo sur l'oraison. J'ai intitulé ça le combat de Jacob. Un topo sur le discernement des esprits, les anges et les démons, dans le combat spirituel, quels sont les auxiliaires et les ennemis. Et puis on terminera sur la pénitence, donc la confession et l'extrême-onction. Vous voyez tout ce qui est un peu dans la ligne du combat. Donc cette année, ça sera à partir de décembre, les armes de lumière. Hein. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu, on tâche de voir les choses de façon un peu dynamique. Et c'est vrai que c'est très intéressant, puis si je suis vivant l'année prochaine, et encore en forme, on parlera de l'Eucharistie, donc avec ce qui gravite autour, à savoir le mariage et le sacerdoce. Donc c'est très intéressant pour les gens mariés, mais pour tout le monde aussi. Voilà. Alors là, on va terminer de parler du baptême. Et on avait commencé à parler des rites par lesquels on rentre dans l'Église. Alors je vous commente en fait le rituel du baptême des adultes qui est le plus riche. Le baptême des enfants, c'est la même chose, sauf qu'on fait moins d'exorcismes, il n'y a que 2 exorcismes au lieu de 7. Et puis il y a un certain nombre de choses qui sont abrégées ou qui sont faites par les parrains, évidemment à la place de l'enfant. Et c'est vrai que c'est une cérémonie extrêmement prenante. Je vous le commande d'après le rituel que je suis, qui est le rituel ancien latin, mais qui se recoupe avec beaucoup de choses, avec les rituels orientaux, donc parce que le baptême, ça a été le premier lieu de l'enseignement chrétien, la préparation au baptême, qui était toujours pour des adultes, donc on a fait un topo sur la catéchèse, et c'est vraiment quelque chose de passionnant, qui me passionne d'autant plus que c'est quelque chose d'actualité aujourd'hui, où chaque année, vous avez des centaines et des milliers d'adultes en France qui reçoivent le baptême, en particulier en provenance du judaïsme et de l'islam, et comme je suis un peu quelques musulmans en voie vers le baptême ou déjà baptisés, ça m'intéresse particulièrement. Mais vous aussi, ça doit vous motiver parce que je pense qu'on est à un moment où c'est favorable. Vous voyez, je pense que, par exemple, pour les musulmans, en Afrique du Nord, en Algérie, il doit y avoir entre 40 000 et 70 000 chrétiens. Mais on ne le dit pas, quoi. La plupart sont évangélistes, mais beaucoup sont catholiques. Et en France, il y a un mouvement de conversion qui est aussi un peu occulté et qui est difficile pour eux parce que ça leur fait beaucoup d'ennuis avec leur famille et des menaces. Je recommande ces gens-là à votre prière qui vont parfois jusqu'à la violence physique, l'incarcération privée et puis même l'assassinat. Hein. Donc, c'est des gens à soutenir. Il y a un vrai mouvement actuellement. Moi, je suis assez vieux pour vous dire que ce n'était pas comme ça il y a 30 ou 40 ans. Et donc, c'est un bon signe. Voilà. Alors, donc, on va maintenant parler des rites du baptême en suivant ce rituel qui. Le rituel que je vous décris, il vient en gros du,
les grandes églises latines, africaines et italiennes et gauloises du 4e siècle. Hein. Donc Carthage, pour personnaliser un peu la chose, Naples, Rome, Milan, Arles, et puis les églises espagnoles, les églises qui allaient devenir les églises visigothiques. Donc c'est une très belle chose, très ancienne, qui véhicule de la doctrine. Voyez, on va le dire, les rites sont un moyen pour les gens d'arriver à la connaissance de la vérité, surtout pour ceux qui ne lisent pas. Autrefois, beaucoup de gens étaient analphabètes, et la catéchèse, c'était les vitraux, c'était les mystères devant la porte des cathédrales, c'était des choses comme ça. Voilà. Bon, donc on a vu la première partie du rituel qui est à l'extérieur de l'église. Le prêtre a une étole violette. Hein. C'est ce que je vous ai mis, je crois, sur le résumé. Voilà, donc la dernière fois, c'est ça. Il avait une étole et une chope violette. Voilà. Et il continue. Il y a donc trois parties. Hein. À l'extérieur, on a déjà commenté. Et maintenant, on va commenter juste à l'entrée de l'église. Et puis après, au baptistère. Vous voyez, il y a un mouvement aussi dans le baptême pour montrer qu'on se rapproche du Christ qui est à l'autel. Et on utilise l'espace pour enseigner aussi. Vous voyez, le fait de progresser, le fait de faire une procession, le fait de se déplacer, ça véhicule un message. Comme dans le protocole, si vous voulez, c'est tellement évident que ça existe même chez les civils, si j'ose dire. Hein. Il y a une façon de se tenir ou de s'habiller, etc., en fonction des circonstances et des personnes. Et pour le baptême, c'est pareil. Je vous avais dit que ceux qui étaient là l'année dernière, les catéchumènes, étaient dans une place à part dans l'église. Bon, et là, dans le baptême, ils rentrent dans l'église. Et il y a donc un rite solennel d'introduction dans l'église qui est très beau. Parce que moi, j'aime bien faire des baptêmes. J'en fais pas énormément parce qu'on n'est pas à paroisse, mais ça m'arrive quand même. Donc le prêtre est en surplis. Donc normalement, il est comme je suis, enfin en soutane, en habit avec son surplis dessus. Et puis il a une étole, hein, qui est un ornement... Voilà, chez nous, les Occidentaux, c'est une étole. Chez les Grecs, c'est l'épitrachelion, qui est pareil, mais qui va jusqu'en bas, qui est un très bel ornement, donc qu'on met quand on fait un acte sacerdotal. Et puis, il a une chape sur les épaules. Et alors, donc, il tend l'étole, hein, il la tend à l'élu. L'élu, je vous ai... Bon, pour les anciens, vous savez, l'élu, ça veut dire celui qui est catéchumène dans la dernière phase de préparation. Pas simplement qui écoute les topos, hein, comme si parmi vous, il y a des gens non baptisés qui viennent pour voir un peu... à quoi ça ressemble la doctrine catholique. Bon, ils écoutent, ils sont un peu, non, ce qu'on appelle les auditeurs. Mais après, il y a l'inscription formelle à l'épiphanie, on s'inscrit sur la liste des catéchumènes, période des persécutions, ça c'est un billet pour l'échafaud. Hein. Donc c'est pour ça qu'au moment des persécutions, l'inscription sur le rôle des catéchumènes était vraiment considérée comme déjà une sorte d'entrée dans l'Église. Parce que quand la police saisissait les rôles des baptisés, ils étaient aussi persécutés. Mais donc là, c'est des catéchumènes tout à fait particuliers qu'on appelle ceux qui doivent être illuminés en Orient et les élus en Occident. C'est un beau terme, hein, ceux qui ont été choisis, parce que le baptême, c'est une grâce. Hein. Donc c'est vraiment une grande grâce qu'on a reçue. Et voilà, en préparant tout ça, je me suis dit que c'est bien d'être baptisé. Quoi. Donc on met son étole. Alors, on l'attend, l'étole à l'élu qui la prend avec sa main. Alors, si c'est un enfant, on lui met sur la tête, bien sûr. Bon. Parce que même avec sa petite main, il ne va peut-être pas approcher ce qu'il faut. Quoi. Et donc, on lui met, et on lui dit, un tel, alors on l'appelle par son nom. On l'a demandé le nom dès l'entrée. On va revenir sur le nom après. Je vous ai parlé de l'importance du nom, c'est très émouvant. Entrez dans la Sainte Église de Dieu pour recevoir de notre Seigneur Jésus-Christ la bénédiction céleste et avoir part avec lui et ses saints. Donc, vous voyez, c'est... Entrer dans l'Église, c'est être uni au Christ. C'est ça l'essentiel du baptême. C'est l'union au Christ. Et le commentaire que je vous ai mis, je crois, sur le résumé, hein, c'est que ça symbolise le fait que le baptême nous ouvre la porte des cieux. Puisque l'Église est l'image du ciel. Et donc, quand on rentre dans l'Église, on rentre, si vous voulez, dans le ciel sur la terre, dans le chemin du ciel sur la terre. Là, vous savez que Saint Rémy, quand il a baptisé... ce rude chef germain et franc, si vous voulez, qui s'appelait Clovis, hein, et il est rentré dans l'église et qui était illuminé, il y avait des torches, il y avait des chants super géniaux, et le roi lui dit, « Père, est-ce là le royaume dont tu m'as parlé ?» Il dit, « Non, mon fils, ce n'est que le début du chemin qui y conduit. » C'est vrai qu'une belle cérémonie dans l'église, ça donne ça donne un contact avec le ciel. Donc la puissance du baptême, c'est d'ouvrir les portes des cieux. C'est pour ça que dans le baptême du Christ, on dit les cieux s'ouvrir et la colombe descend. Donc les cieux sont déchirés d'après les évangiles. Donc c'est parce que le ciel est à nouveau ouvert. Et je crois qu'on peut voir là aussi le fait que dans le livre de la Genèse, lorsque nos parents ont péché, ils sont expulsés du paradis terrestre. Et il est dit, c'est une façon imagée, mais enfin on comprend, que Dieu met des chérubins avec des glaives de feu à l'entrée du paradis. Ce qui veut dire que, symboliquement, l'homme ne pourra jamais retrouver sur la terre le paradis. Et donc là, en quelque sorte, le baptême abaisse l'épée de feu du chérubin et on peut rentrer dans le paradis, enfin, le début du paradis. Ça va encore être un peu, il y aura du travail, mais c'est, quand même, c'est une belle chose. Quoi. Et je crois qu'il faut le voir comme ça. Le rayonnement d'un catéchumène adulte, si vous voulez, là, un de mes amis m'a envoyé une photo de quelqu'un que je recommande à vos prières parce qu'elle risque sa vie. Ben la photo, ça vous console. La photo juste, elle a le vêtement blanc, la lumière, et on voit qu'elle est illuminée de l'intérieur. Et c'est ça le baptême. Hein. Alors c'est une très belle chose, vous voyez, cette ouverture du ciel, voilà. Et donc, on tire, si vous voulez, par le pouvoir sacerdotal, parce que l'étole, c'est le symbole du pouvoir du Christ. Donc le prêtre, quand il confesse, quand il donne la communion, il met l'étole. Il doit mettre l'étole, sauf en cas d'urgence. Voilà. Et donc, parce qu'en fait, il agit comme le Christ, vous voyez. Et donc, il y a des prières, quand on se revêt des ornements sacerdotaux, on s'habille pour montrer qu'on est le Christ, vous voyez. Vous m'avez revêtu, dans le rite byzantin, on dit « Je vous rends grâce au Dieu qui m'avait revêtu de la grâce sacerdotale pour vous offrir l'hostie et les sacrifices non sans nom. » Donc c'est très beau, parce qu'on est quelqu'un d'autre tout en restant soi-même. Alors après, il se passe une chose qui est très intéressante, dont on a déjà parlé, la récitation du credo, que le Saint-Père a recommandé dans la lettre par laquelle il ouvre l'année de la foi, qui va commencer ces jours-ci, je crois le 11, je crois, l'année de la foi commence, et il dit, ça serait bien qu'on réapprenne par cœur le credo. Enfin, quand il dit réapprendre, ça ne fait mieux. Même les actes de foi, d'espérance et de charité. Autrefois, on apprenait ça, mais au niveau, je ne sais pas comment vous dire, c'est la 8e, maintenant ça correspond, je ne sais pas quoi, à CM quelque chose. On apprenait ça très vite dans les écoles catholiques. Quoi. Et on apprenait aussi le pater en latin, par cœur, et le credo, bien sûr, il fallait le savoir par cœur. Et c'est une bonne chose, la mémorisation. Hein. Alors là, on obligeait les catéchumènes à l'apprendre. Alors, ils avaient un certain temps, et après, ils devaient le réciter publiquement devant toute l'assemblée chrétienne. Alors, ils balisaient un peu, évidemment. Quand ils étaient sénateurs et qu'ils étaient habitués à prêcher... Oui, parce que l'art chrétien oratoire vient pas mal aussi de l'art oratoire latin. Mais ça allait, mais quand ils étaient d'humbles paysans, alors ils étaient aidés. Mais bon. Saint-Augustin, un très beau passage. Bon, et alors avant ça, il y a une prostration sur le sol pour les adultes, hein, évidemment, pas pour les bébés. On ne va pas les jeter par terre. Donc les petits bébés, on les porte, gna gna gna. Et par contre, les adultes, il faut adorer, prostration. Hein. Et c'est très beau, vous voyez, c'est vraiment une adoration parce qu'on rentre. Vous savez, quand Jacob a eu son... Vous savez, Jacob, c'était un patriarche qui était parti chercher... accomplir une mission dans un pays lointain, et difficile, et dans sa route, il a eu le sommeil, il s'est endormi, il a eu un rêve, il a vu une échelle qui conduisait au ciel avec Dieu appuyé sur le haut de l'échelle, enfin Dieu, une représentation anthropomorphique de Dieu, et des anges qui se baladaient, qui montaient, qui descendaient. Hein, c'est le symbole du Christ, l'échelle. Et donc, l'Église, c'est l'échelle qui fait monter aussi. Donc, quand il s'est réveillé, il a adoré, il a mis de l'huile sur la pierre qui lui avait servi de coussin, hein, et il en a fait un lieu sacré, et ensuite, il a offert un sacrifice. Et c'est un peu l'origine des églises, oui, la consécration des églises est une cérémonie extrêmement développée, qui dure 5 heures au rite pontifical, avec des rites absolument magnifiques, où l'Église est entièrement consacrée pour servir au saint mystère du sacrifice du Christ. Et chez les Arméniens, par exemple, que je connais un petit peu, c'est extrêmement développé le symbolisme de l'Église. Et justement, je vous ai mis ici un texte d'un père de l'Église arménienne à propos de la grandeur de l'Église. Oui. Un très beau texte, c'est un grand poète, Grégoire de Narek. Hein. Donc vous pourrez lire le texte que je vous ai mis, qui se continue comme ça. « L'infini de la lumière divine est béni avec deux fois plus de vœux ici dans cette Église » que dans le magnifique paradis terrestre. Et après, il fait l'éloge de l'Église en lui disant « Cette mère Église enfante aussi des dieux créés, image du seul Dieu, le Christ. » Et il souligne qu'elle est orientée, ça je vous ai mis le texte, hein, l'Église, c'est très important dans la grande tradition occidentale et orientale, elle est orientée vers le soleil levant, toujours. Donc pour intégrer la dimension cosmique à l'adoration, le soleil levant étant le symbole du Christ et le symbole de la renaissance de la vie. Donc c'est vers lui qu'on se tourne traditionnellement dans la spiritualité sémite pour adorer. Donc on rentre dans cette église de pierre qui symbolise le ciel et on récite, donc le prêtre impose la main sur la tête de l'élu et il va réciter avec lui ce qu'on appelle le symbole, d'un mot grec, hein, qui signifie justement, enfin qui a une étymologie qui indique que c'est un signe de reconnaissance. Donc le symbole, c'est-à-dire l'ensemble de le credo, l'ensemble de je crois en Dieu, si vous voulez, c'est les grandes vérités de la foi qui s'articulent entre elles, sur lesquelles on avait fait les premiers cafés cathés, et qui sont le logo, si vous voulez, du chrétien, le mot de passe du chrétien. Le symbole, c'était un système où on avait deux parties d'une pièce, en matière qu'on pouvait casser, qu'on brisait comme ça, chacun partait avec une partie, et quand on se retrouvait, on voyait que c'était bien avec lui qu'on avait fait le contrat. Et alors on a repris ce mot-là pour indiquer, voilà, le chrétien est celui qui croit aux choses qui sont dans le credo. Et alors, chez les Occidentaux, on récite aussi le Notre Père. C'est-à-dire, là aussi, il y avait une cérémonie, on enseignait le Notre Père, et puis on le récitait. Et alors, chez les Orientaux, c'est uniquement après le baptême, parce qu'on estime que seul celui qui est baptisé, qui est devenu fils par la grâce, peut réciter la prière des fils. Alors, je crois que les deux traditions se valent, parce qu'à mon avis, mais jusqu'au bûcher exclusivement, enfin, il n'y a plus de bûcher maintenant, enfin, du moins, plus de bûcher du bras séculier, parce que l'Inquisition n'avait pas de bûcher. Ça serait peut-être le sujet d'un autre café cathédrale. Dans un truc un peu croustillant. Je pense que quelqu'un de bonne foi et qui cherche peut dire le Notre Père. Alors, il ne dit peut-être pas à la même profondeur que le chrétien, parce qu'il n'est pas le frère de Jésus-Christ par le baptême, mais il paraît que Simone Veil le récitait, il l'avait appris par cœur en grec, par Gustave Simon. Et c'est très émouvant, Gustave Simon, et elle était fascinée par cette prière. Vous savez, cette philosophe française qui est morte en 43 à Londres. Donc je pense qu'il y a le pater, je pense, c'est une prière que l'homme qui cherche Dieu peut faire, mais c'est vrai qu'elle a sa valeur fondamentalement pour le baptiser. Donc voilà, on récite le credo, on récite le Notre Père, donc s'il faut croire et ce qu'il faut demander. Hein. En fait, oui, ce que je disais, hier je faisais un cours à nos postulants là, et je leur expliquais le plan de la somme de théologie. Alors je disais, écoutez, ce qui est important, c'est d'avoir une structure. Hein. Pourquoi la catéchèse est débile aujourd'hui? Enfin, excusez-moi, je suis assez direct hein, pour les nouveaux. J'envoie des exocètes, mais je suis pas méchant, dans le fond. Parlez-en avec les anciens, mais je préfère que ce soit direct, quoi. C'est vrai qu'il y a quand même eu une bérésina, pour être modeste, ou un tsunami dans la catéchèse, et on s'aperçoit, enfin moi, comme prêtre avec 35 ans de sacerdoce, que les fruits de la nouvelle catéchèse sont extrêmement modestes. Vous voyez, comme je suis... Je pourrais presque dire ça à l'Académie française, vous voyez, comme je suis modeste. Bon, là, je dis pas encore trop de gros mots, j'en suis qu'à la première chouffe. Hein. Bon, alors, pourquoi? Mais parce qu'il manque la structure, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on fait des dessins, on lit un passage de l'Évangile, on fait un petit machin, tout ça. Mais après, c'est comme l'étude de certaines facultés de théologie, on étudie des trucs, mais pour faire l'unité, c'est très, très... C'est d'ailleurs vrai aussi dans certains domaines de sciences profanes, en philosophie, par exemple. Mais il faut avoir une structure, quitte après à comprendre qu'elle peut être perfectionnée. Parce que la structure nous permet d'avancer, quoi. Et donc, la structure, c'est les quatre parties, les quatre vérités nécessaires au salut, qui sont dans le catéchisme du Concile de Trente et qui ont été repris textuellement et volontairement par le cardinal Ratzinger, qui est devenu pape après, hein, dans le catéchisme de l'Église catholique. Ce qu'il faut croire, le credo, la source de la vie chrétienne, c'est les sacrements, ce qu'on fait cette année, ce qu'il faut faire, les commandements, et ce qu'il faut demander, la prière. Donc vous avez une structure qui est très forte, hein. La foi, la grâce, si vous voulez, les sacrements, les commandements, la morale, en gros, hein, la béatitude et puis les vertus qui conduisent à la béatitude, et puis la prière, ce qu'il faut demander. Et à partir de cette structure, on peut s'organiser pour retenir les choses. Donc c'est important de, voilà, d'essayer de retrouver un peu, surtout dans l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique, qui est plus abordable, ce qui est plus petit, et il est en question-réponse. Donc si vous pouvez regarder un petit peu ça, en tout cas, je suis sûr que ça vous fera pas mal. Voilà, et après, il y a un très beau rite, enfin, ils sont tous beaux, ces rites, quoi, c'est vrai. Surtout quand on se rend compte, c'est des gestes que le Christ a fait ou des paroles que le Christ a dites, vous voyez. Et surtout que là, le rite qu'on va commenter, le rite de l'Effeta, qui chez les adultes est, accompagne le septième et le dernier exorcisme. On a parlé des exorcismes, je ne reviens plus sur eux, mais il y a un nouvel exorcisme très impressionnant que je vous traduis, parce que dans le rituel, il est exclusivement en latin, pour éviter, bon, voilà, c'est... Je ne sais pas si le démon déteste spécialement le latin, mais enfin, les exorcismes dans le vieux rituel sont très efficaces. Alors, c'est le dernier exorcisme où on dit à Satan, parce que dans l'exorcisme, c'est un des seuls cas où on peut vraiment prendre à partie le démon, quoi. Enfin, disons, efficacement, quoi. Donc, on le prend à partie, on le secoue, on lui dit ses quatre vérités, quoi. Et on le dit au nom du Christ, hein. Voilà. Parce qu'on a la puissance du Christ, et bon, le chrétien peut aussi faire des prières de délivrance où il se met dans la puissance de la prière du Christ. Tu n'ignores pas, Satan, que pour toi les peines sont imminentes, imminent les tourments, imminent le jour du jugement, le jour du supplice éternel. Parce que les démons auront un accroissement de peine accidentelle après le jugement dernier. Là, ils se défoulent un peu en nous cassant les pieds, mais après, ils auront plus de baby-foot, si vous voulez, des hommes, pour se défouler, quoi. Donc, ils seront uniquement à se mordre entre eux, à mordre les damnés, quoi. Donc lisez, pour ceux qui ne connaissent pas, le premier chant de plus grande œuvre de la littérature italienne qui s'appelle la Divine Comédie. Le premier chant, c'est l'enfer. Et donc le démon, il est content de nous casser les pieds parce que ça lui change les idées. Enfin, c'est des anthropomorphismes. On fera peut-être un cours sur les anges pour vous expliquer que c'est un petit peu plus subtil que ça. Mais en gros, c'est bien expliqué comme ça quand même, hein. Donc il n'aime pas quand le Christ arrive. Il lui dit, mais pourquoi viens-tu me chasser avant que le temple soit venu, etc. Et il sait que quand le Christ vient, lui, il est obligé de reculer. Ce que connaissent tous les missionnaires. Hein. Quand les missionnaires arrivent, le sorcier a moins de pouvoir. Quand la messe est dite, ou quand il y a l'eau bénite et les exorcismes, le démon recule. Mais quand elle n'est pas dite et qu'il n'y a pas d'exorcisme, le démon avance. Voilà. C'est une réalité. Hein, je vois. C'est une réalité théologique, mais en plus, j'allais dire, c'est une réalité malheureusement expérimentale. Expérimentale, c'est... C'est pour ça que c'est pas facile, parce qu'il faut former des prêtres à l'exorcisme, des prêtres équilibrés, des prêtres de doctrine, des prêtres qui prient, des prêtres à qui le démon ne puisse pas trop raconter de fariboles, etc. Et puis c'est très fatigant, c'est épuisant, l'exorcisme, c'est complètement épuisant. Donc il lui dit ça, le jour qui viendra comme une fournaise ardente, dans laquelle est préparée pour toi et pour tes anges la perdition éternelle. Et là, c'est la phrase que je vous ai mis, la partie de l'exorcisme. Donc le prêtre commande au démon, vous voyez. C'est très intéressant de voir qu'un homme peut commander un esprit. Et c'est d'ailleurs un des signes de la divinité du Christ. C'est qu'il a chassé des esprits. Des esprits mauvais. L'exorcisme, ça fait partie vraiment des tâches apostoliques de ceux qui sont envoyés par le Christ. Et donc, au nom et par la puissance du Dieu vivant, je t'ordonne, qui que tu sois, esprit immonde, de sortir et de t'éloigner de ce serviteur de Dieu, un tel, donc on donne le nom, qu'aujourd'hui notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ a daigné appeler à sa sainte grâce et bénédiction. Vous voyez, on retrouve le côté abandonner Satan, donc là on lui dit de partir, et se tourner vers le Christ. Le baptême, c'est ça. Alors vous, pour beaucoup, vous avez été baptisé étant petit, mais cette année, on va essayer de voir avec la confirmation les armes qu'on a pour lutter contre le démon. Parce qu'il y a un côté de combat dans la vie chrétienne, il y a un côté mystique, un côté de prière, un côté de grâce, etc., très spécial, mais qui nous fait combattre. Donc le démon n'est pas content parce que cette âme lui échappe. Et c'est vrai qu'on sait que le démon fait tout ce qu'il peut pour empêcher les âmes d'approcher du baptême. C'est pour ça que pour les catéchumènes dont je vous ai parlé, il y avait des exorcismes préparatoires pour empêcher que le démon les empêche d'arriver au baptême. Donc il y a le rite de l'Effeta. Après ce dernier exorcisme, alors je l'ai dit la dernière fois, mais j'ai remarqué que souvent les enfants couinent au moment de l'exorcisme. Enfin, pas toujours, mais dans mon cas, c'est ce qui arrive. Quentin, peut-être qu'il se réveille seulement à ce moment-là parce que l'église est plus fraîche que dehors, je sais pas. Mais... Enfin, j'ai remarqué plusieurs fois, c'est comme ça, c'est assez impressionnant. Alors, l'Ephéta, c'est très, très beau rite, c'est une parole araméenne qui signifie ouvre-toi. Et il y a un certain nombre de paroles que les évangélistes qui ont écrit en, semble-t-il, en grec, peut-être pour saint Matthieu en hébreu, en araméen, mais enfin vite traduit en grec, le grec, si vous voulez, le grec de la Koiné, c'est la langue véhiculaire de toute la Méditerranée et même d'une partie du Proche-Orient. Hein, c'est un peu comme l'anglais actuel, quoi. C'est pas besoin d'être très 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 fort pour, à l'époque pour parler le grec de la Koiné. C'est pas la langue de Sophocle, ni encore moins celle du grand poète qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Mais c'était une langue qui était commode parce que les Latins, les Égyptiens, les Syriens, ce qu'on appelle aujourd'hui les Irakiens, si vous voulez, les Chaldéens, dès qu'ils circulaient, qu'ils faisaient du commerce, ils parlaient soit l'araméen, hein, soit la plupart du temps, pour ceux qui allaient plus loin, le grec. Merci bien.
Donc on va faire à moitié, voilà.
Donc on va dire une parole du Christ, voyez. Le prêtre touche les oreilles et les narines de l'élu avec sa propre salive. Après, il essuie, rassurez-vous. Enfin, il ne semble pas qu'il y ait trop de contamination. Mais c'est impressionnant parce qu'il fait ce que le Christ a fait, voyez. Et ça vous rappelle ceci que j'ai déjà dit au début, c'est que tous les sacrements viennent du corps du Christ. Le christianisme est vraiment... c'est pas un pur spiritualisme, hein, c'est vraiment quelque chose qui prend le corps avec l'âme, et tout ça est instrumentalisé par le Christ dans la grâce du prêtre. Et donc il répète la parole telle que le Christ l'a dit, vous savez, dans un épisode qui est rapporté par l'évangile de saint Matthieu, on ne peut pas tout dire, mais voilà, il lui dit, donc on dit au catéchumène, hein, en touchant ses oreilles et ses narines, Ephéta, c'est-à-dire ouvre-toi en odeur de suavité. Toi, le diable, va-t'en, car le jugement de Dieu approche. Donc là, on retrouve les rites préparatoires, dont je vais dire un mot avant de passer à une autre partie. Hein. Le sel qui est mis sur la bouche, donc ça, on en a parlé l'année dernière. La salive dont on touche le nez et les oreilles signifie que les oreilles reçoivent la foi, les narines approuvent le parfum de Dieu, et la bouche est capable de confesser. Enfin, on va revenir là-dessus, mais c'est pour montrer, vous voyez, que tout le corps de l'homme est engagé dans l'existence chrétienne. Et que donc la grâce passe, de même que, enfin, on dira quelque chose pour ça dans le mariage aussi, hein, la grâce passe jusque dans les aspects charnels de l'existence humaine. Le christianisme n'est pas un gnosticisme ou un dualisme. Hein. Donc voilà, la grâce va rentrer dans le cœur du baptisé, hein, pour qu'il puisse écouter la foi avec ses oreilles, qu'il puisse goûter, qu'il puisse avoir le sens catholique, si vous voulez, pas l'odeur du Christ, enfin qu'il sentir l'odeur du Christ. Vous voyez, je lisais récemment une vie de converti avant sa conversion, c'est un scientifique, hein, qui est arrivé à la conversion, mais il disait, ah oui, je viens de voir telle et telle chose, encore toute remplie de l'odeur du catholicisme de mon enfance. Vous voyez, c'est vrai que l'odeur est un des sens, enfin, l'odorat qui permet d'indiquer des choses subtiles et profondes. Hein. C'est vrai que des fois, c'est une odeur, enfin, vous savez, les littérateurs mettent ça, qui fait revenir tout un passé, quoi. Et l'odeur du Christ, c'est l'aspect particulier que revêtent les hommes dans le christianisme. Et puis, la bouche est capable de le confesser. Et donc, voilà, ce très beau rite de l'Ephéta. Et ensuite, il y a... un rite de l'onction, donc qui nécessite une deuxième espèce d'huile, hein, deux espèces d'huile, l'huile des catéchumènes. Il y a le Saint Crème à la fin, mais il y a l'huile des catéchumènes avant. On prend toutes ces huiles-là le jeudi, on va à la cathédrale après la messe de l'évêque. Il a fait les huiles avec un rite très développé, et on prend les huiles et après on va les mettre dans les paroisses ou dans les couvents pour faire les baptêmes, l'extrême onction et la consécration des prêtres. Et des rois, quand il y en a à consacrer, c'est moins courant. Donc, mais c'est la même, le crème du baptisé, c'est le même que pour le sacre du roi de France. Hein. Voilà, mais c'est très beau de voir, parce qu'en fait, c'est le signe profond de communion avec l'évêque, c'est de recevoir les huiles. Le signe le plus traditionnel. Hein. Donc il y a une deuxième renonciation à Satan. Donc vous voyez, l'enfant, enfin, ou le catéchumène adulte, là on commente le baptême adulte, est rentré dans l'église, lui a posé l'étoile sur la tête, il a récité le credo et le pater, hein, et puis l'Ephéta, où il a à nouveau ouvert tout le corps, à la dimension charnelle du christianisme, Et là, on lui dit à nouveau de renoncer à Satan. Il y a une deuxième renonciation à Satan. C'est assez curieux parce qu'il l'a déjà fait une fois avant, mais je crois que ça reflète les différents scrutins dont je vous ai parlé, examen, parce qu'on examinait les gens pour voir s'ils étaient capables de tenir sur la durée pendant à cause des pressions antichrétiennes qu'il y avait dans l'entourage, quoi. Donc on examinait est-ce que vraiment vous êtes décidé à renoncer à Satan, à savoir les mœurs des païens, la façon de vivre des païens, leurs erreurs, l'encens offert aux idoles, la reconnaissance de la divinité de l'empereur lorsqu'il a demandé cette reconnaissance, donc assez vite, surtout dans la zone de l'Asie. Avant de la demander à Rome, il l'a demandé en Asie. Donc on voulait vérifier qu'il pouvait tenir le coup. Et donc là, il y a l'annonciation à Satan, donc je ne la redécris pas, mais qui était une cérémonie qui était dramatisée par le rite. On se tournait vers l'Occident en insultant, on peut le dire, Satan, et après on se tournait vers le Christ en recevant l'Occident, qui est le lieu où le soleil se couche, c'est le symbole des ténèbres, et puis l'Orient, le soleil se lève, c'est le symbole du Christ. Alors j'ai retrouvé un texte que je cherchais, d'un vieux manuscrit du 5e siècle, une description imagée, si vous voulez, de la renonciation. Maintenant, le diable se tient vers l'Occident, grinçant des dents, s'arrachant les cheveux, se tordant les bras. Bon, c'est une description, pour faire comprendre. Se mordant les lèvres, hurlant comme un fou sa solitude, ne pouvant croire à votre libération. Là, c'est le prédicateur qui prêche aux catéchumènes, voyez-vous. C'est pour ça que, aussi, les chrétiens ont de l'opposition. Parce que, quand même, Satan a une certaine influence sur le monde. Saint Jean l'appelle le prince de ce monde. C'est pas lui le boss de tout, hein, mais enfin, quand même, il a une certaine influence. Donc, forcément, le chrétien va avoir à lutter contre le fait qu'il veut pas que Satan veut pas le perdre. Le Christ vous met face à face avec le diable pour que, après l'avoir renié, soufflé sur lui, vous puissiez entamer le combat contre lui. Vous voyez, je crois que c'est important de trouver cette dimension. Parce que moi, j'ai l'impression, enfin, c'est plus qu'une impression, qu'on est mou, quoi. Enfin, depuis 30 ou 40 ans, enfin, pour vous, si vous étiez pas nés, quoi. Mais bon, peut-être je suis un peu hyperbolique dans mes expressions. Mais il y a quand même un côté, si vous voulez, bon. Le premier texte chrétien non canonique qu'on connaît, ça s'appelle les deux voies. Il y a une voie qui est la voie de Satan, et puis une autre voie qui est la voie du Christ. Et on décrit ces voies. Alors la voie du Christ, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain, la suavité, la bonté, le pardon des offenses et tout. Puis la voie de Satan, je ne vous décris pas, il suffit d'ouvrir le 20h, ou bien votre iPod, votre machin qui fait tout sauf le café, et là vous êtes sûr d'avoir toute la merde qui arrive. Et bon, la voie de Satan, on voit ce que c'est, quoi. C'est quand même pas... C'est le métro le lundi matin en septembre, quoi. Surtout sur la ligne qui marche le moins bien. Je ne dirai pas le nom pour ne pas faire de la peine à ceux qui se tapent 1h15 devant tous les jours. Bon. Mais voilà, c'est quand même pas super, quoi. Il y a un combat, quoi. Et donc on dit aux chrétiens, c'était peut-être plus clair lorsque l'Empire était... Enfin, actuellement, ça redevient un peu clair aussi, de certaine façon. L'Empire était quand même officiellement persécuteur, donc... Voilà, donc et peut-être les chrétiens s'endorment un peu parce qu'ils sont habitués jusqu'aux années 50, enfin moi encore dans mon enfance, en gros, et puis peut-être plus tard dans d'autres pays, les valeurs catholiques étaient respectées, quoi, ou au moins extérieurement, au moins. Vous voyez, il y avait un certain accord sur la loi naturelle et le bienfait social du christianisme. Enfin, dans les pays où je suis né, où j'ai vécu, c'était comme ça. Ils ne sont pas très éloignés d'ici quand même. Hein. Mais voilà. Tandis que je crois qu'il faut se rappeler qu'il y a un combat vraiment avec le démon. Et donc on renonce au démon, renoncez à lui et soufflez. Ensuite, tournez-vous vers l'Orient, joignez-vous au Christ. C'est une très belle homélie antiochienne, donc voilà. Et alors pour aider à combattre, il va y avoir l'onction des catéchumènes qui était sur tout le corps, hein, donc avec cet effet très publiquement. Il y avait les diaconesses. Diaconesses, ça servait à ça, hein, c'était pas pour donner la communion. C'était pour l'onction d'huile sur tout le corps des femmes. Et les diacres pour les hommes et tout, nanana. Et on avait, parce que les athlètes dans l'Antiquité étaient complètement étaient massés, enfin, avec des huiles super qui donnaient de la vigueur, et en même temps, pour attraper le gars, c'est plus compliqué quand ça glisse. Quoi. Enfin, dans certains types de lutte grecque, c'était gênant. Quoi. Et donc, on mettait, c'était le symbole de l'athlète. Et ça a été repris, vous voyez. En général, le christianisme reprend ce qu'il peut prendre, vous voyez. C'est pour ça que ça étonne un peu les gens. La Toussaint, c'est la reprise de. Enfin, du culte du Panthéon à Rome, quoi. Il y avait un temple avec tous les dieux. On a viré les dieux, on a mis tous les saints, quoi. Vous voyez, très souvent dans les campagnes, vous avez des lieux qui étaient autrefois des lieux de culte druidique, quoi. Chartres, par exemple. Je me souviens un jour, j'étais à mon premier palais de Chartres, c'est très vieux, hein. Ça a plus de 40 ans. À l'époque, on était 200. Puis je vois un de mes amis, avec ses rangers, là, J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là? T'es païen, toi? Elle me dit, je suis là parce que Chartres, c'est un haut lieu celte. Je vais le payer parce que c'est un gars super mytho qui est devenu un super cadeau. Mais je donne pas le nom, quoi. Sauf après au billard pour les copains. Quoi. Mais voilà. Mais c'est sympa, quoi. Il était venu, bon, pour lui, c'était mytho, on allait à Chartres. Mais donc, l'église christianiste, qu'elle peut. Et c'est du bon sens, quoi. C'est du bon sens. En Amérique latine, on sait ça mieux que partout, enfin, dans d'autres pays aussi. Évidemment, il y a une limite qui est assez difficile en Chine. Ça a été difficile de trouver la bonne limite, quoi. Mais pourquoi pas reprendre ce qu'il peut y avoir d'indifférent ou même de bon au travers, en laissant tomber ce qu'il y a de mauvais. Alors, la difficulté, c'est de laisser tomber le mauvais, quoi. Mais par exemple, en Chine, le culte des ancêtres, c'est magnifique. C'est la piété filiale, mais alors c'est presque une divinisation, quoi. Oui. Donc, il fallait trouver le juste milieu, quoi. Donc, ça se disputait, comme d'habitude, entre dominicains et jésuites pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc, ça mettait un peu d'ambiance, quoi. On a trouvé une voie moyenne grâce à la résistance des dominicains contre Vichy. Quoi. Enfin, et des franciscains, on n'était pas les seuls. Mais c'est pas évident. Hein. Parce que je pense que c'est des trucs, il n'y a pas de solution absolue. Si vous êtes trop cassant, il oui, ne faut pas attaquer les cultures dans ce qu'elles ont de valable. Mais si vous êtes trop conciliant, si vous voulez, et trop dedans, voilà, vous ne montrez pas. Parce que le christianisme, c'est continuité par rapport à la loi naturelle, mais c'est aussi nouveauté. Quoi. Nouveauté, donc une certaine rupture. Par exemple, l'Église n'admet pas la polygamie. Quoi. Je suis désolé, messieurs, ça vous arrangerait peut-être bien, à certains moments, mais parce que, bon, à cause de la nature déchue, c'est vrai que, voilà. Mais l'Église n'admet pas ça, et à mon avis, elle n'est pas prête de l'admettre. Enfin, je vous signale, il y a certains changements dans l'ordre civil, mais là, je crois que dans l'Église, ça ne va pas trop passer. Mais donc, par contre, voilà, donc en Afrique, quand le problème des catéchumènes africains, c'est ça, c'est que souvent, ils ont deux, trois femmes et qu'ils ne veulent pas en laisser tomber deux, quoi. Ils ne veulent pas faire de la peine à deux femmes sur trois, quoi, bon. Et donc là, on ne peut pas inculturer, quoi, en disant, bah non, je te donne la communion mais quand tu n'auras plus que deux femmes au lieu de trois, quoi. Non, non, il faut attendre que ce soit vraiment comme des chrétiens. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de catéchumènes de 30, 40 ans, dans certaines régions, qui jouent de l'orgue, qui récitent le credo et tout, mais tant qu'ils n'ont pas lâché les femmes surnuméraires, si j'ose dire, enfin, je dis ça, en tout cas, on aime beaucoup les dames, c'est pas, l'Église est très respectueuse de la dignité féminine, qu'elle a exaltée comme nulle autre, hein, relisez les lettres de Jean-Paul II, etc. Donc il y a l'onction pour être des athlètes qui luttent pour le Christ. Oui. Et on prononce une formule trinitaire. Hein. C'est pas simplement quelque chose. C'est très spectaculaire, bien sûr. Hein. Alors là, actuellement, pour les enfants, on le fait sur la poitrine. Et puis là, on demande à la maman de déboutonner un peu. Et là, ils sont trop boutonnés. Il faut un peu errer pour pouvoir toucher la poitrine et toucher les scapulaires ici, là, dans le dos. Hein. Bon, ça symbolise l'onction totale. Et pour lui donner la force de lutter contre le démon. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait tous ces rites préparatoires, vous voyez? Oui, c'est assez beau de penser aussi, vous voyez, que je lisais ça il y a quelques jours dans Sainte Catherine de Sienne. En fait, elle dit, nous qui sommes des gens charnels, enfin avec un corps, on est plus fort que le démon parce qu'on a le glaive de la volonté trempé dans le sang du Christ. Et dans notre volonté trempée dans le sang du Christ, on peut frapper des stocks et de taille et on envoie le démon au tapis. C'est sympa quand même. Mais trempé dans le sang du Christ, c'est que c'est pas du volontarisme. Hein. Je signale à ceux qui me chercheraient des noises. Il faut user de la volonté. Mais c'est vrai que la volonté sans la grâce, ben, on craque à un moment donné. Quoi. Le stoïcisme, ça marche jusqu'à une certaine limite. La morale du Bushido, c'est pareil. Hein. Pour les samouraïs et tout, c'est quand même limite, quoi, parce que la volonté, ça va, mais ça devient inhumain. Quoi. Et donc, il faut que ce soit dans le sang du Christ. Hein. Alors, donc, à ces rites extérieurs, je vous rappelle pourquoi on les met. Ils ne sont pas indispensables. Hein. Vous savez qu'en cas de nécessité, il faut faire ce qu'on appelle l'ondoiement. Vous versez de l'eau, naturelle si possible, sur le corps de la personne qui vous a demandé le baptême, ou du bébé. Hein. Il faut que ça touche son corps. En disant, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et si, même si vous n'avez pas la foi, que vous avez l'intention de faire ce que l'Église considère comme un rite sacré, la personne est baptisée. Donc ça, c'est le minimum indispensable. Mais il y a aussi tout un autre rite, et après, il faut compléter. Alors, on va dire pourquoi. Parce que les rites préparatoires donnent beaucoup de solennité. C'est vrai qu'un baptême, c'est beau, c'est une grande chose. C'est émouvant, quoi. Ça marque le coup. Et on écarte les obstacles. Obstacle extérieur, le démon. Obstacle intérieur, la faiblesse la blessure de nos sentiments, si vous voulez, de nos capacités internes. Alors les obstacles extérieurs, c'est les exorcismes pour le démon, c'est, on lui souffle dessus, on l'a montré au dernier Café Caté, expulsion du démon par exsufflation, on lui ferme le chemin du retour en mettant les mains sur la tête et en faisant des signes sur le corps. J'ai expliqué qu'il y avait 7 signes de croix sur le corps en nommant toutes les parties du corps pour empêcher le démon de revenir. Hein. Et puis la force de la lutte, c'est l'huile. Vous voyez. Donc vous voyez, pour le démon, on est pareil. Il est viré par l'exsufflation, il est bloqué par le signe de croix. Vous voyez, le signe de croix, c'est extraordinaire. Hein. Dans l'exorcisme, on en fait plein. Et c'est très important, la croix. Hein. C'est vraiment c'est par la croix qu'on est sauvé. Et puis, on a la force de lutter avec l'huile des catéchumènes. Et puis, obstacle intérieur, donc c'est le sel et la salive. Ça lutte contre les désordres de nos passions. Ça ouvre l'oreille de notre cœur et ça ouvre les narines spirituelles pour nous faire donner le sens de l'Église et le sens chrétien, qui est quelque chose d'un peu subtil dont on parlera avec la confirmation. Donc voilà, là on a fait tous les rites préparatoires et on se dirige vers le baptistère. Donc dans beaucoup d'églises, il y a encore l'ancien baptistère à l'entrée. Ou vers l'entrée. Parce que parfois le baptistère était même un bâtiment distinct de l'église, comme on le voit à Saint-Jean de Latran. Avec une piscine, on pouvait descendre d'un côté et ressortir de l'autre. Parce que c'est baptême par immersion. Voilà, qui est plus expressif, mais moins commode à pratiquer. Si les apôtres ont baptisé 3000 personnes le jour de la Pentecôte, je pense que ça a été l'aspersion. À moins qu'on ait fait un sprint jusqu'au Jourdain, enfin, ça fait quand même 800 mètres de dénivelé, puis après il faut remonter, et même à la Pentecôte, il fait chaud, quoi. Alors quand même, hein, faut pas forcer. Hein. Voilà. Doucement le matin et pas trop vite l'après-midi, quoi. C'est la devise du Moyen-Orient. Et pas seulement. Hein. Voilà. Alors, c'est plus commode, mais c'est vrai que c'est l'immersion. Alors là, dernier interrogatoire. Donc, vous voyez, on accumule, mais c'est qu'on reprend le système ancien où il y avait à l'Épiphanie, aussi 5e dimanche de carême, 3e dimanche de carême, le samedi avant les rameaux, le jeudi saint, le vendredi saint, et pas le cerise sur le gâteau, la grande veillée toute la nuit et le baptême. Voilà. Donc, c'était étalé, si vous voulez. Et donc, il y avait plusieurs interrogatoires. Là, on demande à nouveau le nom. Hein, il l'a déjà donné, mais on le redemande. Et j'avais donné dans le premier résumé. Donc, je vous avais mis, c'est pas ici, mais celui de juin. Donc, ce que dit Nicolas Cabasillas, nous sommes connus par Dieu. Dieu nous appelle par notre nom. Vous voyez, quand on connaît le nom de quelqu'un, on le connaît, on est un peu dans son intimité. Si on connaît son prénom, c'est déjà mieux. Son surnom, c'est encore mieux, etc. Il y a des langues où les surnoms n'en finissent pas. En russe et en espagnol, par exemple. Et donc, vous voyez, le nom donne un pouvoir sur le cœur. Dans la culture sémite, c'est extrêmement important. On ne dit pas son nom n'importe qui à n'importe qui. D'accord. Donc, lorsque on donne le nom, les parents, lorsque vous donnez le nom de baptême, vous accomplissez une œuvre divine, vous êtes l'instrument de la prédestination de l'enfant. Dieu va l'appeler et il va le connaître, il va le voir, parce qu'il va rentrer dans la sphère visible, si vous voulez, avec son radiotélescope de la grâce. Quoi. Sinon, si vous voulez, il existe, on existe toujours. Mais on n'est pas dans le royaume. C'est pour ça que le Christ dit, je vous ai les vierges folles, vous voyez, qui ont pété un plomb, qui ne sont pas venues préparer qui n'ont pas pris leur recharge pour leur ordinateur et tout ça. Donc elles sont coincées, le matin, elles paniquent et tout, mais c'est fini. Et leur réponse, je ne vous connais pas. Alors, c'est ne pas être connu du Christ, c'est la pire des choses, quoi. Parce qu'en fait, c'est vrai, le Christ nous connaît comme Dieu qui a fait le monde, bien sûr. Mais en tant que fils de Dieu, il ne nous connaît pas parce qu'on n'a pas voulu rentrer sous la lumière de sa grâce. Parce que la lumière est pour tout le monde, mais il faut venir à la lumière. Sors de ton trou, quoi. Il y a un très beau passage dans Bernanos là-dessus. Les âmes rasantes, vous voyez, qui sont près du mur, et vous essayez de leur dire quelque chose, et elles sont près du mur pour rester dans l'ombre. C'est marrant le nombre de gens qui ne veulent pas dépasser la deuxième question d'apologétique, parce que vu que moi je me balade toujours comme ça, évidemment, enfin, sauf pour nager un 50 mètres d'eau croulée, parce que je fais de moins en moins, parce que l'eau est pas chaude, et puis parce que j'ai mal au dos, mais comme je suis toujours en habit, les gens me parlent. Voilà, quelquefois, dans le TGV, on peut pousser un peu plus. Mais très souvent, assez souvent, pas très souvent, il y a une question, peut-être une deuxième, mais il n'y a pas une troisième. Pourtant, ça coûterait, quoi. surtout quand on n'est pas pressé. Mais il y a une peur d'arriver à la lumière. Et je connais des gars qui ne mettent pas les pieds dans une église, mais pas physiquement, hein, parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Ben, ils ont raison. Ben, oui. Les gars qui le font, ça leur fait quelque chose. Enfin, leur dites pas. Enfin, au petit, on peut peut-être dire à certains tempéraments, on peut peut-être leur dire ça, parce que par provoque, ils risquent de le faire. Enfin, ça dépend du gars, donc c'est assez subtil quand même. Hein. Mais c'est vrai que si on discute avec un chrétien, j'en parlais, j'ai été soigné récemment par un type de très haut niveau, et bon, le troisième entretien, bon, on était parti sur des choses scientifiques, on est arrivé aux choses religieuses. Elle me dit, ah oui, je fais de la peine à ma femme en lui disant qu'on est des purs fruits du hasard, etc. Et parce qu'elle est très croyante, mais moi, je ne suis croyant en aucun sens. Alors, je dis un truc sur la distinction entre la science et la métaphysique, enfin, qui a peut-être autre chose en dehors de la science. Il m'a dit, oui, je comprends, mais c'est vrai que dans nos vies, on est très pris, quoi. C'est un type très distingué, très bien, hein. Mais bon, je vais lui filer d'ad-hoc sur des trucs scientifiques qu'il m'a demandé, j'espère que je vais le trouver. Ça va permettre de garder le contact. Mais vous voyez, on est passé à autre chose, quoi. Alors, l'ad-hoc sur les trucs, ça sert ça, s'il veut bien que je lui passe. Mais la question, je lui dis, oui, c'est ce que dit Pascal, je pourrais peut-être lui passer une partie des pensées et tout. Mais donc, ouais, il faut prier pour que ces gens-là viennent à la lumière. Celui qui vient à la lumière, il la recevra. Mais très souvent, en restant dehors. Donc, on demande le nom. À nouveau, une confession de la foi qui est très belle. C'est une confession trinitaire. Un tel, croyez-vous en, alors, on pose trois questions. Alors, trois questions qui sont justement l'essentiel du credo. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, en Jésus Seigneur et Sauveur, au Saint-Esprit qui nous sanctifie, qui... Voilà, je condense un petit peu. Mais on attribue, si vous voulez, aux trois personnes divines les œuvres que toute la Trinité fait, mais on attribue plus la création au Père, le salut au Fils, évidemment, et la sanctification au Saint-Esprit. Donc on pose trois questions, et à chaque fois, c'est les questions qu'on pose la nuit de Pâques, quand on va renouveler les promesses du baptême. Hein. On répond, oui, je crois. Donc c'est toujours en forme trinitaire. Hein. Et puis après, on demande quelle est l'intention de la personne. Enfin, ça, c'est très important pour les adultes. On pose même deux questions, ça c'est curieux. Que demandez-vous à l'église de baptême? Voulez-vous être baptisé une deuxième fois? Je crois que c'est vraiment pour enfoncer le clou, parce qu'en fait, celui qui vient au baptême, il faut qu'il fasse attention à ne pas recevoir un baptême sacrilège. Valide, mais sacrilège. C'est comme pour le mariage. Je crains qu'actuellement, il y ait beaucoup de mariages. Enfin, je ne vous dis pas ça, vous faire de la peine si vous êtes marié de cette façon-là, parce qu'après, on se confesse et ça roule, quoi. Mais enfin, il faut quand même, c'est pas bien de faire un sacrilège, quoi. C'est un euphémisme, hein, je vous dis. Il faut se confesser, il faut se préparer, machin, machin. Bon. Et je me souviens à mes camarades curés, la préparation au mariage, on lui pose quelques questions, puis il a dit, mais vous cherchez quand même pas à m'attirer à la foi, là. Un gars qui venait pour demander le mariage à l'église, quoi. Mais vous voulez pas que... Il a dit, vous voulez pas que je devienne catholique, quoi. Mais il a dit, mais vous voulez pas quand même que... Oui. Bon. Alors, faites attention, parce que ce gars-là, même s'il a été marié validement, ce qui est... Il faudrait voir son intention à côté de ça. Souvent, nos confrères marquent au crayon dans la marche. Ils ont un doute, quoi. Parce qu'on a beau poser des questions. Mais la vérité, si je mens, machin, tout ça. Mais... Et le gars, il va tout faire parce que c'est plus joli à l'église, quoi. Il y a l'or, il y a la robe blanche, enfin, même si souvent elle n'a pas beaucoup de raisons d'être blanche à ce moment-là. Il y a machin, il y a bidule et tout. Bon, c'est quand même sympa. Et autrefois, il y a même le Suisse, enfin, vous n'avez pas connu ça. Puis tout ça. Et c'est quand même plus sympa qu'à la mairie. Ou bon, c'est quand même tristou, même. Bon. Voilà. Et donc, alors on ne sait pas trop ce qu'ils veulent. Parce que pour se marier, il faut quand même avoir l'intention de faire ce qu'est réellement le mariage, même naturellement. Tu vois. À savoir une union indissoluble. Mono dans les deux sens, hein. Et pour la vie et ouverte à la vie. Mais si le gars dans sa tête il dit bon, à partir du deuxième gauche je triche, hein, volontairement, ben, je suis désolé, c'est pas un mariage, c'est un contrat pour certaines parties de la vie matrimoniale, hein, pour un certain temps. Et donc, enfin, je dis ça un peu pour vous faire peur aussi, mais on parlera du mariage l'année prochaine. Bon, alors pour le baptême. Il faut avoir l'intention de recevoir ce que donne l'Église, un rite sacré. Et donc, il faut la foi et il faut la contrition et le ferme propos de sortir de ses péchés. Donc, celui qui a la foi, mais une foi qui n'est pas très éclairée, une foi qui doute un peu, mais qui sincèrement cherche, vous voyez, il peut faire le pas. Il ne sait pas trop où il en est, mais il se dit, bon, je fais toute la démarche, ça va. Et je ne sais pas si vous avez lu le texte de Rail Samaritain, qui a reçu la foi à l'instant de son baptême. Donc c'est une convertie juive du début du siècle, c'est-à-dire siècle dernier. Et donc, il est converti, une concours circonstance très intéressant, par un type de race assez folklore, assez cinglé, qui s'appelait Léon Blois. Mais il y a des cinglés qui convertissent beaucoup de monde. Enfin, les cinglés, une part de lui était folklore, quoi. Enfin, vous en connaissez tous, des gens comme ça. Sinon, la vie serait un peu triste, quoi. Et ce gars-là, il amenait les gens au baptême, et c'est en lisant un de ses livres qu'elle a été bouleversée. Et donc, ils sont mis en contact avec lui, parce qu'il s'était dit, lui et Jacques Maritain, si on ne trouve pas de but dans la vie, on se suicide dans 2 ans. C'était des gens très, très absolus. S'il n'y a pas de raison de vivre, pourquoi rester sur la terre? Et grâce à Blois, ils ont trouvé la vérité et ils sont arrivés au baptême. Ils ont été préparés par un père dominicain qui s'appelait Père Clérissac, je précise. Qui était un intello super sympa. Et alors, ils sont arrivés, mais en fait, Raïssa, qui était une juive russe immigrée ici, en France, une femme très intelligente, très fine, elle se demandait si elle croyait. Elle disait ceci, j'étais dans une absolue sécheresse. Je ne me souvenais plus d'aucune des raisons qui avaient pu m'amener là. Une seule chose était certaine, ou le baptême me donnerait la foi, et je croirais, et j'appartiendrai à l'Église. Totalement. Et c'était les absolus, les mariages. Ou je m'en irais, inchangée, incroyante à jamais. Je crois que, il me semble que le bon Dieu doit aimer ce genre de choses. Enfin bon, je dis ça avec prudence. Quoi. Mais elle y va à fond, quoi. C'est sympa. Telles étaient aussi à peu près les pensées de Jacques. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Une paix immense descendit en nous, donc elle décrit le baptême. Portant en elle les trésors de la foi, il n'y avait plus de questions, plus d'angoisses, plus d'épreuves. Il n'y avait plus que l'infinie réponse de Dieu. Mais elle avait travaillé pour résoudre les doutes. Hein. Ce n'était pas quelqu'un qui était contre-intelligent. Mais vous voyez, la foi achève le chemin. L'Église tenait ses promesses, et c'est elle la première que nous avons aimée. C'est par elle que nous avons connu le Christ. C'est très intéressant. Il y a des gens qui viennent à l'Église par le Christ, et d'autres au Christ par l'Église. Très, très, très passionnant. Bon, voilà, donc il faut avoir un embryon de foi. Voilà, c'est déjà déterminé. Et il faut vouloir sortir du péché. Parce que comme le baptême, c'est le signe qu'on rentre dans la grâce du Christ. Si, par exemple, les gens qui... quelqu'un qui est en concubinage et qui se demande à être baptisé sans régulariser sa situation, ben, on ne peut pas le baptiser. Non, c'est logique. Hein. J'ai vu dans les questionnaires qu'on posait à l'époque en Orient au 4e siècle, c'était, bon, au 3e siècle, bon, on posait des questions et le parrain, enfin le garant, devait examiner si le gars, il était tenancier de maison close, est-ce qu'il était décidé à changer de métier, quoi. Et sinon, bah, qu'il attende, qu'il étudie et qu'il bosse un peu. Quoi. Mais il pouvait venir écouter à l'église. Oui. Il faut quand même un minimum de cohérence. Donc les choses qui sont intrinsèquement contraires à la vie chrétienne, parce qu'il y a la foi, il y a la vie chrétienne. Et donc voilà, il faut être décidé. Et alors la renonciation à Satan, c'est le ferme propos. Donc voilà, lui qui a ça, eh bien il peut s'avancer, il reçoit le baptême et il reçoit la grâce du baptême. Si par contre il triche, vous voyez, il a la foi suffisante, l'attention générale, mais il n'est pas trop décidé à faire des efforts. Alors il reçoit le caractère baptismal, mais il fait un péché mortel et il faudra qu'il se confesse pour retrouver la grâce. Donc vous voyez, on ne l'abandonne pas, mais il est quand même en mauvaise posture. Voilà, alors après il y a le sacrement lui-même. Dans ce qu'on appelle le rite essentiel, donc l'élément charnel, corporel, si vous voulez, c'est l'eau, et le geste, c'est de laver avec l'eau en disant une certaine parole. Vous voyez, c'est tout un ensemble. Il y a de l'eau, mais il faut que cette eau serve à laver le corps, comme symbole du lavage de l'âme, en disant une parole qui explicite qu'on est en train de faire. Donc vous voyez, c'est très magnifique, parce qu'en fait, Dieu se sert des choses du monde. Hein, il y a un poème qui a été écrit par, par un des grands convertis du XXe siècle, qui résume, je crois que c'est Hilaire Belloc, un franco-anglais, qui a écrit un magnifique poème d'esprit franciscain, où il fait chanter toute la matière, toutes les choses, toutes les plantes, etc. Et ça plairait aux artistes. Il leur fait chanter la gloire de Dieu, un peu comme Saint François dans le Cantique des créatures. Et là, c'est vrai que l'eau, le vin, le pain, le sel, l'huile, hein, la lumière, la cire des abeilles... Il y a plein de choses, hein, les pierres de l'Église, enfin, tout ça, c'est... Dieu les a fait en pensant à l'Église, quoi, et Et en pensant au Christ. Quand l'esprit reposait sur les eaux dans la description symbolique de la création, où il y avait la masse informe et l'esprit de Dieu qui reposait sur les eaux. Eh bien déjà, c'est un symbole du baptême. C'est-à-dire que Dieu a fait l'eau en pensant au baptême, à mon avis. Parce que le corporel est pour l'esprit, et l'esprit est pour le Christ. Donc ça marche, oui. Ça ne veut pas dire que le corporel n'a pas... Ça ne veut pas dire que pour trouver les lois de la relativité générale, il faut connaître la somme de théologie, hein, non. Einstein ne connaissait pas, quoique il était déiste, mais voilà. Mais ça veut dire que cette cohérence naturelle est subordonnée à l'esprit, oui. Et l'esprit lui-même est ouvert à la grâce. Et c'est vrai, il y a une grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est dans un matérialisme profond, et qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'esprit n'existe pas. Qu'il n'y a pas de choses qui soient... que tout est matériel. Et c'est vraiment assez étonnant d'en être arrivé à un point tel. Mais... Alors en fait, il faut avoir une pédagogie, je crois, assez patiente, parce que celui qui affirme, par exemple, il n'y a rien d'universel, ou bien tout est matériel, il affirme quelque chose d'universel et d'immatériel. Oui, donc le scepticisme ou le matérialisme complet est un système autoréférent, si vous voulez, pour parler comme les modernes, ou une contradiction dans les termes. Vous ne pouvez pas ériger en vérité universelle qu'il n'y a rien d'universel. Et vous ne pouvez pas ériger en élément spirituel le fait que tout serait matériel. Un jour, il y avait Changeux qui faisait une conférence, un type spécialisé dans ce genre de truc, hyper matérialiste. Une conférence que mon prieur actuel a écouté pour philosophie des sciences. Il a fait tout un baratin pour expliquer que l'homme était un tas de neurones, et voilà, avec la pensée, c'était comme le citron, quand vous appuyez, ça sort des neurones. Voilà. Et enfin, c'est un peu plus subtil que ça. Alors, il y a un gars à la fin qui a dit, il y a un problème, là, votre discours, là, c'est un produit de vos neurones, hein. Donc moi, je m'en fous. Hein. Si c'était neurones, c'est pas les miens, tu vois. Non, mais il faut être un petit peu logique. À partir du moment où vous communiquez, vous êtes obligé, si vous voulez, tout discours est obligé de passer dans l'esprit, quoi. Alors c'est difficile parce que les gens sont tellement pressés, surtout interviewés par un journaliste. Ouais. Alors qu'est-ce que vous dites d'un truc qu'il faudrait une heure pour faire le résumé du résumé du résumé. Vous avez deux minutes et après on vous coupe, quoi. Parce que ce qui compte, c'est une émotion pour le gars. Non, mais il faut prendre son temps. Donc tout arriver, si vous voulez, dans le domaine de la communication de quelque chose qui est destiné à l'ensemble des hommes est forcément universel et spirituel. Donc je crois qu'il faut trouver les voies pour ramener nos contemporains. Alors je pense qu'une des voies qui est importante, c'est celle de l'amour. Un des convertis que je lisais, là, un scientifique du siècle dernier, disait, c'est ce qu'affirme Pasteur aussi. Hein. En tout savant, il y a deux hommes, le savant et puis l'homme, qui souhaiterait que la mort de sa femme ne soit pas comme la disparition d'une paramécie. C'est vrai que si vous êtes marié et que votre femme meurt, ça fait quand même une différence avec le chien. Ou le chat. Enfin, il y a des gens qui sont chats ou poissons rouges, enfin, les gars qui... Voilà. Mais en bonne logique de matérialisme, c'est simplement une question de degré, si vous voulez. Je suis un tout petit peu plus performant que le cochon, mais j'ai presque le même ADN, quoi. Mais c'est qu'une question de quantité. Alors, je pense que par l'amour, l'amour qui, chez les hommes, est spirituel, quand même, même s'il est très passionnel et charnel aussi. Et il y a quand même une dimension... Par l'amour et l'art, je pense, la poésie, on peut au moins faire sentir... que quelque chose dépasse la matière. Et c'est précisément ce qui me relie aux autres humains, l'amour, l'amitié, enfin... on dit que Takashi Naga, il y a encore un autre savant de philosophe, de médecin et de physique nucléaire, japonais. Le premier choc pour sa conversion, ça a été le regard de sa mère, qui était shintoïste, enfin qui n'était pas chrétienne, juste à la seconde avant de mourir. Sa mère l'a regardé, et là, il aimait énormément sa maman. Il a commencé à se dire, il n'y a pas que de la matière. Le regard de ma mère, enfin, ce que ça m'a fait comme effet, je ne peux pas expliquer ça. Et bon, pour beaucoup d'hommes, c'est comme ça que ça se passe. L'entrée vers la vérité est accompagnée d'un choc affectif, hein, sensible et en tout cas dans le domaine de la volonté. Alors donc, il y a la matière, c'est l'eau, et le rite, c'est de verser l'eau ou de plonger dans l'eau, hein, pour symboliser la mort du Christ et de faire sortir de l'eau pour symboliser la résurrection. Donc la matière, c'est l'eau, parce que l'eau est le lieu de la vie. L'eau est matrice, elle est source de vie. Enfin bon, ça marche assez bien en biologie. Donc, comme c'est le sacrement de la vie sort de l'eau, voilà. C'est même dans le récit de la Genèse, c'est représenté comme ça. Bon, c'est pas un récit scientifique, mais enfin, on comprend bien que c'est vraiment, en tout cas, les planètes sur lesquelles la synthèse de l'eau n'est pas possible ne permettent pas d'arriver à une vie un petit peu organisée. Les effets, c'est qu'on lave l'âme, donc l'eau, ça lave, on rafraîchit, or ça adoucit les passions, enfin le baptême adoucit quand même. Dans les éléments, quand j'ai parlé de l'apologétique de l'Église il y a 3-4 ans, c'est vrai quand même que le christianisme a mis en lumière une dimension de douceur, si vous voulez, la trêve de Dieu, le pardon, etc., qui était absente des plus grandes civilisations. Sauf peut-être un peu de Confucius et un peu de Bouddha, mais dans un autre sens. Vous voyez, en tout cas en Occident. Pourquoi ? Ben parce que, voilà, il y a le foyer de concupiscence, le foyer de mal du péché originel est quand même attendri par le baptême. Et puis l'âme est illuminée, vous voyez, l'eau traversée par la lumière, c'est très beau, hein, c'est fait de la pêche sous-marine, c'est magnifique. Là, au moment où le soleil traverse l'eau, alors on voit un univers tout à fait féerique, voilà. L'eau et la lumière, ça fait vraiment un mélange tout à fait charmant. Et donc on symbolise, voilà, par l'eau, tous ces effets, la foi illumine notre âme et elle nous fait voir dans les profondeurs ce qu'on n'aurait pas pu voir. Il y a un fond qui est là avec des richesses qu'on découvre avec la foi. Et puis ça permet de représenter le mystère même du Christ, hein, qui descend aux enfers, il est enseveli dans la mort et il ressuscite. Ouais. Voilà. Donc chez les orientaux, l'évêque enfonçait le catéchumène dans l'eau, hein, je te baptise au nom du Père, glou glou glou. On le sortait, et du fils glou glou glou, enfin pas trop longtemps, c'est pas une apnée de 2 minutes 30, c'était juste qu'il pouvait, voilà, symboliquement, et voilà, et comme ça il était baptisé. Alors la forme du sacrement, c'est, donc je vous ai indiqué la forme latine, ça indique ce qui est en train de se passer, hein. Un tel, je, moi le ministre, te, toi, tu es le sujet du sacrement, te baptise, donc tu vas, le péché originel est effacé, tu reçois la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui fait ça? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc on indique tout. Celui qui est l'instrument, c'est le « je », je suis en train de te baptiser. Celui qui reçoit, c'est « te », toi, un tel, je, te, voilà. Et puis celui qui fait vraiment la chose en profondeur, c'est la Trinité. Et chez les orientaux, c'est la même chose, mais en passif. Le serviteur de Dieu, un tel, est baptisé. Donc vous voyez, on indique bien quand même le sujet, est baptisé, mais il est baptisé, c'est bien le prêtre qui descend le bébé dans la bassine d'eau tiède, hein, voilà. Et baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a tout, voilà. Et c'est un très beau rite, très simple, hein, auquel Dieu accorde une valeur énorme, puisqu'on a indiqué les effets du sacrement. La Trinité vient habiter dans l'âme, la grâce sanctifiante nous habite, le péché est effacé, les peines dues au péché sont effacées, et si le baptisé meurt juste après, il va au ciel tout droit. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors c'est ce qu'on va symboliser avec les rites complémentaires. Donc le crème, le vêtement et la lumière. Et puis on terminera là-dessus. Donc c'est des rites qui aussi donnent une solennité à la cérémonie. Ça instruit les fidèles, ça excite aussi un peu la dévotion, parce que c'est vrai que l'immobilité totale, c'est bien pour faire oraison, on parlera de la prière silencieuse, de l'oraison, mais c'est vrai aussi qu'on a besoin, par le corps, de manifester les choses. Donc dans les rites, il y a des mouvements, et ça nous indique quelque chose. Et puis, bon, on fait obstacle à la puissance du démon, ce qui fait que si vous envoyez quelqu'un à l'hôpital, voilà, une fois que ça va mieux, ben, il faut compléter tout à l'église. Et on inscrit tout dans le registre. Alors l'onction du crème, ça complète l'huile des catéchumènes, ça symbolise, si vous voulez, le fait que le baptisé est roi avec le Christ. Il est loin, le Christ, ça veut dire loin par excellence, et c'est de là que vient le nom de chrétien. C'est ce que dit Tertullien, notre nom de chrétien vient de là, de ce crème, que signifie l'onction, et qui donne aussi son nom au Seigneur. Donc c'est quelque chose de très beau, parce que le crème fait de nous nous fait régner avec le Christ dès maintenant. Alors évidemment, c'est un peu mystérieux parce que c'est dans la foi. Mais en vieillissant, on se rend compte que ça ne marche pas. Enfin, vous vous en doutez déjà, quoi. Sauf si vous êtes vraiment croyant. Mais c'est quelque chose qu'on découvre dans le temps, oui, aussi. Parce que le monde est quand même au service des élus. Et quelquefois, il faut un peu se consoler en pensant à ça. Il faut amener la lumière. Ceux qui la veulent la reçoivent. Mais ceux qui ne veulent pas, ne veulent pas. On ne peut pas les forcer. Mais au total, le Christ a déjà gagné. Et si vous voulez, le chrétien promène sa victoire cachée avec modestie. Hein, il en prend des coups, etc. Mais il est déjà victorieux. Et au fond, il est heureux à cause de ça. Moi, je ne sais pas, je vais parler de l'année de la foi à des prêtres là, au mois de novembre. Et je crois que je vais terminer vraiment sur le... À mon avis, un élément tout à fait fondamental, c'est la joie. Parce qu'il y a... Voilà. Avec le Christ, on est victorieux. Et on aimerait bien que les gens soient victorieux aussi au lieu d'aller mourir... En pensant qu'il tombe dans le néant, quoi. Ce qui ne veut rien dire de tomber dans le néant. Hein. Mais c'est quand même terrible. Hein. Alors, la grâce, vous savez, il faut aussi être beaucoup de miséricorde parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi qui aimeraient bien la voir. Hein. Donc il faut aussi pas penser que c'est tous des méchants ceux qui n'ont pas la foi. Hein. Ceux qui ont le bonheur d'avoir la foi. Hein. Et donc. Et seulement, ils ne sont pas arrivés là, ou ils ne l'ont pas encore reçu. Et c'est vrai que, par exemple, il y a des convertis qui, avant même d'avoir la foi, poussent les gens vers la foi. Je lisais un truc assez extraordinaire. Je suis en train de lire des récits de convertis du XXe siècle. C'est une très belle série. Et il y a un type qui était un médecin, un artiste très folklore, mais bon, qui s'est engagé comme médecin pendant la guerre de 14, qui était un ami d'André Gide. André Gide, un auteur que je ne vous conseille pas spécialement de lire. Un amoraliste protestant d'origine, un moraliste français, mais très doué évidemment, et qui avait beaucoup d'amitié, en particulier chez les catholiques, comme Maritain et ce gars-là, dont le nom m'échappe. Oui, dont le nom plume après est devenu Guéon, André Guéon, devenu un auteur de théâtre français assez rigolo. Et ce gars-là, pourquoi je vous parle de lui? Ben parce que Gide, en fait, c'est Gide qui l'a fait rencontrer le gars qui l'a converti. Parce que Gide a eu un rêve. Il était très ami avec ce futur Guéon, qui est son nom de plume, quoi. Et il avait un rêve, ils étaient dans une très belle vallée, poétique et tout, avec des arbres, la lumière, de l'eau et tout. Puis ils discutaient, ils marchaient côte à côte. Et puis à un moment donné, son ami se tourne vers lui, il dit « Pas plus loin, car entre nous, il y a ceci », et il monte son chapelet. Et Gide se réveille. Et ça, il ne lui a pas dit. Hein. Il lui a dit après sa conversion. Mais il l'a noté dans son journal. Et on se demande si c'est pas ça qui fait qu'il va dire, ben écoute, tu es sur le front à tel endroit, rencontre un tel, il faut que tu le connaisses, tu vas t'entendre avec lui. Et c'était un autre copain, super catho de Gide. Et c'est le contact avec cet homme qui a converti ce type. Donc c'est quand même, vous voyez, c'est comme chez Gide, il y avait quelque part. Et quand il est revenu du front, il a discuté avec Gide, et Gide lui a dit, mais écoute, ben, au point où tu en es, je comprends pas que tu ne sois pas déjà mis en règle avec l'Église catholique. Donc, vous voyez, même un type assez diabolique, hein, parce qu'au fond, il semble que le refus ultime de Gide a été diabolique, hein, semble-t-il. Il y a quelque chose en lui qui... Donc, on doit être très respectueux avec le cheminement des âmes. Hein, alors, donc, c'est pour vous dire que c'est vrai que chez le chrétien, il y a une royauté. Cette royauté rayonne. Vous voyez, par exemple, je lisais dans la vie d'Edith Stein, hein, la carmélite juive convertie un peu avant la guerre, et quand elle est allée voir sa mère, donc une juive très pieuse et tout, sa mère était effondrée de sa conversion. Mais les amis disaient, Madame Stein a respecté le chemin d'Edith parce qu'elle était comme vaincue par le rayonnement extraordinaire qui sortait de cette femme. Alors déjà, c'était humainement un sujet surdoué, Edith Stein, un des plus grands esprits philosophiques de l'Allemagne de l'époque, hein, dans les élèves de Husserl. Mais après son baptême... Même sa mère, qui était vraiment une juive extraordinairement pieuse, généreuse, enfin inouïe, quoi. Eh bien, elle était subjuguée par le rayonnement de lumière qui sortait d'Edith Stein, après son baptême. Et qui est tombé à genoux devant elle, en revenant de son baptême de Cologne, était baptisé à Cologne. Et sa mère était encore à Breslau. Et « Maman, je suis catholique. » Je vais vous dire que ça a été un... Mais c'est émouvant parce qu'au moment où elle a renouvelé ses vœux, quelques temps après, Edith Stein, qui est devenue une sainte canonisée, vous savez, sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, une des patronnes de l'Europe, a dit « J'ai senti au moment de mon renouvellement que maman était là, que ma mère était à côté de moi. » Et c'est l'heure où sa mère est morte. Donc vous voyez, peut-être que sa mère avait le baptême de désir. Voilà, donc l'onction du crème, le vêtement blanc. Alors là, en Orient, c'était extrêmement, et en Occident aussi, extrêmement solennisé. Donc, on leur donnait un vêtement blanc qui gardait pendant une semaine, jusqu'au samedi, où on déposait les vêtements blancs, on en gardait le nom dans la liturgie, pour symboliser leur nouvel état. Et donc, on remet même encore aux enfants un petit vêtement blanc. Et puis, le cierge allumé pour manifester la lumière du Christ. Alors, je vais terminer par un très beau texte de Jean Chrysostome, dans un de ses plus beaux, ses plus belles prédications, qui est un sermon aux néophytes, donc les jeunes baptisés. Il explique en fait que le soleil, quand il se lève, éteint les étoiles. Mais quand le Christ se lève, il allume les étoiles des baptisés. Et au fond, nous les baptisés, nous sommes des étoiles qui sont allumées par le Christ. Les lampes tenues dans les mains symbolisent l'illumination de l'âme. Les étoiles de la terre rayonnent d'une lumière plus brillante, les étoiles de la terre baptisées, les nouveaux baptisés, une lumière plus brillante que celle des étoiles du ciel. Il existe des étoiles sur la terre parce que le Dieu du ciel a paru sur la terre. Elles brillent en plein soleil, leur éclat est plus lumineux que celui des étoiles qui servent la nuit. Les astres du ciel achèvent leur service au lever du soleil. Ceux de la terre rayonnent d'une lumière plus éclatante quand paraît le Christ, le soleil de justice. C'est quand même extraordinaire, quoi. C'est parce que le Christ est le soleil de justice que les saints sont lumineux. Ben, actuellement, je suis en train de lire le Coran. Pas pour me convertir, mais pour expier mes péchés. Et bon, il faut que j'ai lu le Coran, vu l'apostolat que je fais. Et ben, c'est pas pareil. Je peux vous dire. Vous l'auriez deviné avant de le lire, mais j'ai vérifié personnellement. Je pensais que c'était casse-pied, et c'est vrai que c'est assez casse-pied. Il y a des grandeurs, mais c'est extrêmement obsessionnel et répétitif. C'est la chose qui me frappe le plus. Alors dans les grandes choses, c'est la grandeur de Dieu, et surtout ce qui me frappe, c'est l'isolement de Dieu. Dieu est le séparé, et personne ne le touche, si vous voulez. Alors qu'en christianisme, le saint est un autre Christ. Donc c'est pas la même chose. C'est extrêmement différent, et c'est ce qui reproche aux chrétiens. C'est que le chrétien est associé à Dieu. Et pour eux, alors que le christianisme est quelque chose de tellement divin que les hommes deviennent Dieu par participation. C'est-à-dire que l'islam est faux, parce qu'il limite la puissance de Dieu à un Dieu philosophique totalement séparé de ses créatures. Il nourrit ses créatures avec bienveillance et miséricorde. Hein, la sourate d'ouverture qu'on répète tout le temps, hein. Le Dieu miséricordieux, d'accord, mais c'est une condescendance, voilà, qui se passe très loin pour les gens qui sont soumis. Mais dans le christianisme, on n'est pas seulement soumis, on est amis. Donc c'est quelque chose quand même, c'est mieux. Alors merci de votre attention. Alors, n'hésitez pas à poser des questions.
Il y a des questions.
Si je connais la réponse, je vous réponds. Sinon, je vais chercher dans des bouquins après.
Je commence pour lancer.
Ah, Thibaut.
C'est pour lancer. Hein. Vous avez dit que le nom, c'est quelque chose qui est très important et qui permet de connaître les gens. Voilà. C'est une question provoque. Pourquoi est-ce que vous changez de nom quand vous entrez en religion?
Pourquoi change-t-on de nom quand on rentre en religion? On ne change pas tout à fait, on garde. On perfectionne notre nom de baptême dans un nom de religion pour montrer qu'il y a une deuxième conversion. C'est-à-dire qu'on prend des moyens pour suivre le Christ de plus près. J'en parlerai quand je parlerai du Christ pauvre, chaste et obéissant. Donc on prend une identité, on se met sous le patronage. Moi, j'ai choisi Louis-Marie, mais je suis toujours Olivier de mon nom de baptême, quoi. Mais ça fait, si vous voulez, un perfectionnement. Et aussi, ça marque la rupture. Donc les deux dimensions. Un ajout et une distanciation par rapport au vieux. Mais il y a des formes de vie religieuse où on ne change pas. Enfin, nous, on a gardé, c'est une vieille coutume. Et puis, je crois qu'il y a aussi un peu comme... il y a le dernier numéro de Valeurs Actuelles, là, qui est sur la Légion, là, Legio Patria Nostra. Il est bien fait, hein, si vous avez Valeurs Actuelles, c'est assez bien fait. Parce que je connais un peu la Légion étrangère, et je trouve que ça... Je n'ai pas trouvé d'erreur là-dedans. Mais alors, dans la Légion, c'est un des seuls corps, c'est un corps unique au monde, d'ailleurs, où on peut donner une identité d'emprunt officiellement. À certains. En tout cas, si on est français et qu'on s'engage dans la Légion, on est automatiquement, on devient belge, suisse ou québécois, avec un nom d'emprunt et on est né à Nantes. C'est d'accord avec la justice. Mais je crois que c'est pour montrer, vous voyez, pour qu'on foute la paix aux gens. Et même un prince russe, vous voyez, il s'engage sous le nom de Popov, et puis c'est marqué. Ça permet une liberté par rapport au passé. Et il y a des ordres, d'ailleurs, chez les chartreux, on ne parle jamais de son passé. Chez nous, c'est pas comme ça, mais... À la Légion, c'est... Enfin, en gros, surtout, on raconte pas, c'est... Enfin, pour respecter ceux, précisément, qui ont un mystère à pas dévoiler. Donc, je crois que dans la vie religieuse, il peut y avoir ça aussi.
C'est une question ici.
Pardon, oui.
Assez surprise peut-être un peu choquée par votre conclusion.
Allez-y.
Parce que vous, je ne sais pas si c'est vraiment une question que je vous livre comme ça, une interrogation, mais est-ce que le fait d'être croyant peut nous permettre de hiérarchiser la religion ?
Tout à fait. Excellente question.
Est-ce que moi, j'ai des amis juifs, par exemple.
Oui.
Dans mon travail, des personnes qui sont de confession musulmane, et je les trouve tout aussi respectables.
Bien sûr, moi aussi.
J'ai
parlé de l'islam, hein. Je n'ai pas parlé des musulmans.
Oui.
Est-ce que vous venez au mois de novembre ?
Je respecte leur...
Parce qu'en novembre, on va en parler, ça. La différence entre le respect de la personne et le respect de la religion. Et la hiérarchisation de la religion. Si vous voulez. Si Dieu. Je ne sais pas si vous avez suivi les conférences apologétiques, on a montré qu'il y a un chemin, bon, que Dieu existe, que Dieu a parlé, et que si Dieu parle, il donne des signes pour reconnaître sa parole. Et donc, les signes qui sont donnés sont des signes qui montrent que Dieu a choisi le peuple d'Israël et qu'il s'est incarné en Jésus-Christ. Et donc, ça, c'est oui ou non. Ou bien Jésus-Christ est Dieu ou il n'est pas Dieu. Jusque-là, ça va. Alors, l'islam et le judaïsme, bon, les personnes sont en effet éminemment respectables. Et en plus, j'ajouterais même qu'au point de vue naturel, elles sont souvent plus proches de la vérité, au moins de la pratique d'une partie de la vérité, qu'une grande masse d'occidentaux pour qui Dieu n'existe pas et qui tuent leurs enfants dans le ventre des mamans. Mais, ou qu'ils admettent des mœurs contre nature dans le domaine sexuel. Donc sur ces trois points-là, beaucoup de juifs et de musulmans pratiquants, même tous ceux qui suivent l'orthodoxie dans la mesure où il y en a une dans sa religion, sont plus près de la loi naturelle que beaucoup de baptisés, si vous voulez. Et justement, c'est baptiser, c'est carte de l'enseignement d'église. Donc ces personnes sont respectables, et moi personnellement, j'ai aucun mépris pour elles, surtout que je pense qu'un des grands torts des chrétiens, depuis 50 ans, est d'oublier la transcendance qui est affirmée fortement dans l'islam et le ritualisme qui est présent chez les juifs pratiquants. Donc on peut se laisser interpeller par eux, comme on dit, et il y a des gens comme Foucault qui ont été au Psychari, donc des convertis du début du XXe siècle, à l'époque où la France avait encore une présence coloniale en Afrique du Nord, qui ont été ébranlés de leur rationalisme par le contact avec la piété naturelle des musulmans. Parce qu'en plus, les sémites, pas simplement les arabes, mais les arabes et pas simplement les musulmans, sont naturellement presque plus pieux, les juifs aussi qui sont sémites, voilà, que certains occidentaux, que les races occidentales. Voilà. Donc ça, c'est naturel. Donc c'est éminemment respectable. Mais maintenant, si Jésus-Christ est Dieu, ça fait une grande différence pour le salut éternel de recevoir cette richesse. Et donc, celui qui a reçu et qui adhère au fait que Jésus-Christ est Dieu est plus dans la vérité que celui qui dit non, il n'est pas Dieu. Par exemple, la maman d'Edith Stein, a accompagné sa mère à la synagogue, même après son baptême, jusqu'à son entrée au Carmel. Et au dernier accompagnement, ils reviennent à pied exprès pour discuter, et sa mère lui dit, « Edith, as-tu écouté le sermon ? N'était-ce pas un beau sermon ?» Et Edith lui dit, « Mais oui, est-ce que tu vois donc qu'on peut très bien être pieux dans le judaïsme ?» Elle dit, « Oui, pour celui qui ne connaît pas autre chose, » répond Edith Stein. Elle dit, « Ah oui, mais pourquoi as-tu été connaître autre chose ? Je n'ai rien contre ton Jésus, je n'en dirai pas de mal, pourquoi fallait-il qu'il se fasse Dieu ?» Donc ce qui séparait Edith et sa mère, c'était l'adhésion au mystère de l'homme-Dieu. Et donc, est-ce que, au point de vue de la vérité, et donc de Dieu, parce que Dieu est vérité, est-ce qu'Edith n'est pas en meilleure condition que sa maman ? Bien que sa maman, très probablement, semble-t-il, soit sauvée par le baptême de désir. Hein. Mais donc, ça, c'est très important de faire cette différence-là. Parce que moi, j'ai été agnostique pendant 5 ans. Et je peux donc vous dire que je me suis posé le problème. Si je reviens, qu'est-ce que je vais choisir ? Donc j'ai étudié le bouddhisme, l'islam, protestantisme, ça a été vite fait, je suis assez mauvaise foi là-dessus, bon, etc. Mais j'ai regardé, j'avais pas, bon. Et donc, vous voyez, donc, il faut bien se dire que la quantité de vérité qui se trouve dans la croyance que j'ai est positive, c'est ce qu'on dit. Et quand on dit, donc j'ai simplement dit, alors vous avez réagi, c'est très intéressant, si vous venez le mois prochain, on en parlera à propos de Vatican II. Vous avez réagi quand j'ai dit, c'est pas la même chose. Et j'ai dit, c'est mieux. Évidemment, sinon je serais musulman. Si je pensais que l'islam était mieux, je serais en contradiction avec la vérité, avec l'être, si je n'étais pas musulman.
Est-ce que je suis moins croyante si je ne perçois pas cette supériorité en tout
Alors, je vais faire une réponse, je vais essayer d'être le plus diplomate possible. Et le plus vrai. Vous êtes plus dans l'erreur objectivement, mais je comprends votre difficulté subjective, qui est extrêmement répandue, parce que je ne pense pas que vous étiez là quand on a parlé de la foi dans les tout premiers cafés cathés il y a 10 ans. Voilà. Et parce qu'on a beaucoup insisté, justement, dans la foi, il y a 2 éléments. Enfin, donc l'année de la foi nous permet... Il y a un élément, il y a un contenu, on adhère à des vérités. Et la foi, c'est dans l'intelligence, mais une intelligence qui est transformée par la grâce de Dieu, qui se met dans notre volonté, dans notre amour, qui fait qu'on veut adhérer au Christ et à Dieu, et donc on l'écoute et on adhère à toute la vérité qu'il nous donne. Mais il y a les 2 éléments, le contenu de la vérité et la force de mon adhésion, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des musulmans qui ont une adhésion naturelle, si vous voulez, extrêmement forte, mais c'est, j'appellerai pas ça une foi surnaturelle, au contenu du Coran, si vous voulez. Mais ils sont plus dans l'erreur, le problème est le suivant. Est-ce que le Coran a été révélé par Dieu? Si on dit que le Coran a été révélé par Dieu, nous les chrétiens, on a faux. Et il y a donc, si vous voulez, c'est quand même intéressant qu'il y ait un enjeu, si vous voulez. C'est pas. Et je pense que, je sais pas, vous avez vu ici, on a eu Mohamed Christophe, le président, le fondateur de Notre-Dame de Kabylie, association de chrétiens convertis de l'islam. Il dit, mais si c'est aussi respecté, si c'est aussi, aussi vrai, et si c'est des chemins équivalents, pourquoi est-ce que nous, les musulmans, on aurait à se convertir? Donc, je crois que subjectivement, il peut y avoir des gens qui sont plus convaincus dans l'islam, mais ils sont quand même dans l'erreur. Et vous, si vous voulez, si comme chrétienne, vous vous dites c'est surtout la sincérité qui compte, je dirais que je comprends votre sentiment, mais je ne crois pas qu'il soit... Enfin, il pourrait être perfectionné et amélioré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est vrai ce que vous dites, parce que en plus, il y a la vie qu'on mène après. Parce qu'il ne suffit pas d'être chrétien. Si j'ai une vie en contradiction avec mon christianisme, je vais être, moi, dans un péché encore plus grand que le musulman qui ne respecte pas le Coran. Vous voyez, il faut faire très attention à tout ça. Donc je comprends quelquefois, on se pose surtout aujourd'hui, moi, quels sont les gars vous savez, les gars qui donnent des cours de catéchisme dans les écoles. Souvent, les gars qui s'intéressent, c'est les musulmans au cours de catéchisme catholique. Ils posent les questions parce qu'ils s'intéressent à la religion. Moi, dans la rue, qu'est-ce qui me parle très souvent, c'est les musulmans. T'as raison, tu mets Dieu dans la rue, il est où Dieu ici? Il est où? Il n'y a plus Dieu nulle part, t'es le marabout et tout. Bah après, il va peut-être me cracher dessus. Hein, je ne vous parle pas d'un truc totalement hypothétique, mais bon, ça fait partie du jeu, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est sympa, quoi, parce que, si vous voulez, ils sont admiratifs d'une confession publique de foi. Et il dit, vous les chrétiens, vous êtes des dégonflés, quoi. Parce que vous croyez en Dieu, mais vous n'osez pas, voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est admirable. Moi, je trouve que c'est... Enfin, admirable, sauf que ça tombe dans le fanatisme. Hein. Mais je veux dire que beaucoup ne sont pas fanatiques. Hein. Donc, ça, c'est admirable. Mais le mouvement intérieur doit être complété, si vous voulez. Ce qui fait que converti, ça devient des gens extraordinaires. Il doit être complété par un contenu vrai. Vous voyez. Parce que, vous savez, on peut même imaginer... Moi, je crois qu'il y a des fanatiques musulmans qui sont de bonne foi. Je suis désolé. Qui ont été éduqués là-dedans. Qui donnent leur vie. Quand vous lisez le Coran, j'en suis qu'à la sourate 17, donc je me suis tapé déjà pour la moitié. Hein. Mais donc, je vais lire encore là. Mais c'est des appels au djihad continu, et pas simplement un djihad purement intérieur. Combattez dans la voie de Dieu. Donc, si vous voulez, ils se disent, pour obéir à Dieu, je dois combattre. Donc, il peut y avoir des gens sincères et qui ont peut-être même le baptême de désir. Mais on respecte. On va dire, ils sont quand même moins, parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Et donc, ils vont faire des choses, vous voyez. Voilà. On en reparlera au mois de novembre. Hein. Mais je comprends que ce soit choquant. C'est vrai que c'est un point qu'il faudra qu'on reprenne. Oui ?
Vous avez évoqué à plusieurs reprises le baptême de désir. Et si vous l'évoquez à l'instant pour un musulman fanatique.
Oui, c'est possible.
Imaginons la situation.
Oui,
mais pour entrer au ciel, pour entrer dans la béatitude, il faut inévitablement passer par le Christ.
Oui, voilà. Alors là, il y a un mystère. Saint Paul dit, pour approcher de Dieu, il faut admettre qu'il existe et reconnaître qu'il récompense ceux qu'il cherche. Enfin, dans l'Épître aux Hébreux. Alors, le musulman, il sait que Dieu existe et il cherche. Mais évidemment, il ne connaît pas le Christ et il combat. Mais comme Saint Paul, si vous voulez. Saint Paul a combattu le Christ de bonne foi. Il n'est pas du tout exclu que Saint Paul était en état de grâce, si vous voulez, enfin, avant sa conversion du chemin de Damas. Mais alors, je pense, moi, qu'il y a un contact avec le Christ qui lui est proposé. Soit par une médiation par un homme qui vient, qui lui dit, etc., par un livre, ou peut-être avec un contact mystérieux. Là, il y a vraiment un problème qui n'est pas élucidé. Comment se fait le contact avec le Christ pour celui qui a le baptême de désir et qui n'entend pas parler dans les livres ou par des hommes? Ça, c'est vrai, il y a un mystère. Mais je crois qu'il faut maintenir le mystère ouvert. Oui, dans l'état où on est. Oui, mais il y a des fanatiques qui... Enfin, des fanatiques, des gars qui font des trucs objectivement désordonnés et qui eux-mêmes... Alors, je dis pas, c'est pas pour vous pousser à faire des choses mal. Hein, si vous êtes sincère, il s'agit pas d'être sincère. Mais si vous voulez, qui ont été éduqués dans une certaine voie... Moi, je connais des religieuses dans le sud de la France qui soignent des... Enfin, une religieuse qui soignait des gens dans une banlieue... chaude, enfin tiède, je sais pas. Et alors les gens lui disaient, ah ben vous êtes sympa et tout, quand on vous tuera, on vous égorgera très vite pour que vous souffriez pas. Et vous rigolez, mais je vais vous dire, je pense que c'était pas du tout, c'était des gens très gentils qui disaient ça. Si à un moment donné on nous donne l'ordre de vous ézigouiller, ben il faudra bien, parce que ça sera le djihad et ce sera la voie de Dieu, il faudra combattre dans la voie de Dieu, mais on vous fera pas souffrir. Moi, je pense que certaines de ces personnes sont peut-être de bonne foi, puisque tout petit, on leur a éduqué dans des trucs en disant ci, en disant ça, et ils n'ont peut-être pas encore eu le temps de réfléchir. Parce qu'on peut, voilà, il faut rester. Il y a un chemin possible, même pour ceux qui paraissent les pires truands. Mais évidemment, plus ils sont truands, moins le chemin est évident, plus il est improbable et plus il est mystérieux. Il n'est pas exclu que Pol Pot se soit converti sur son lit de mort, si j'ose dire. Mais disons que c'est quand même pas hyper probable. Hein. Je ne vous conseille pas de jouer. Beaucoup là-dessus avant d'arriver au paradis. Quoi. En général, on meurt comme on a vécu. Quoi. Mais il y a un mystère au moment de la mort.
Sans spéculation trop grande, mais il faudrait imaginer donc comment, au moment de la mort, une rencontre avec le Christ permet de choisir.
Je ne sais pas, je ne veux pas avancer trop là-dessus. Il faut maintenir ce que dit le Concile Vatican II, c'est que Dieu donne à tout homme, adulte, le moyen connu par lui d'être uni au mystère pascal. Ah, il ne dit pas au moment de la mort. C'est peut-être qu'il a eu à un moment donné de sa vie qu'il l'a refusé et qu'après, bon. Mais si on ne sait rien. Mais c'est affirmé, je crois que c'est juste. C'est assez traditionnel. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même. Nous, on a une richesse qui est le Christ. Vous voyez, c'est. Je ne sais pas, c'est. On a les plus grandes richesses pour aller dans le royaume des dieux, de Dieu, donc on veut les donner aux autres. Quoi. C'est logique. Donc on cherche à convertir les musulmans. Mais tout en respectant ce qu'il y a de grand dans leurs affirmations et en ne respectant pas ce qui est faux.
D'autres questions ? Bon, on conclut. Merci beaucoup.